8h32. Premier sujet qui est extrêmement délicat ce matin, en marge de la COVID, et on a vu des médecins le dire. Je dirais exprimer des états d'âme plutôt en disant on en aura le bol de soigner des gens qui ont décidé de se mettre consciemment à risque. Et du même fait, de laisser sur la touche pour des semaines, des mois, des patients qui attendent pour des chirurgies. Et tu peux pas décider de trier patients comme ça, là, sauf que dans le contexte, donc ça génère beaucoup de frustration chez les médecins notamment. Nathalie.
C'est la question, Paul, à 1 million de dollars. En fin de semaine, Denise Bombardier signait, c'est samedi, dans le Journal de Montréal, un texte intitulé « Qui soigner? » Et elle a pris soin de citer le médecin responsable de l'unité des soins intensifs de l'hôpital juif, le docteur Michel Demarchi, qui disait ceci en parlant des délinquants de l'ordre sanitaire. Je vais les appeler comme ça, les délinquants de l'ordre sanitaire. Il disait « Ces gens-là ne devraient pas venir à l'hôpital. » J'ai trouvé son propos extrêmement pertinent et là, je me suis fait la réflexion suivante. Je me dis, il a probablement raison dans la mesure où tous ces gens qui luttent à tous les jours contre les mesures sanitaires imposées contre le gouvernement, qui dénoncent ces mêmes mesures, si ces gens étaient cohérents avec leurs principes, la dernière chose qu'ils feraient, c'est de se présenter à l'hôpital pour recevoir des soins lorsqu'ils en ont besoin. Tu sais, tu peux pas, je pense que si tu milites pour un minimum de cohérence avec tes principes, tu ne peux pas faire le contraire de ce que tu dénonces. Mais entre toi et moi, Paul, je doute que des médecins au Québec prennent la décision un jour de ne pas soigner des gens, effectivement, qui dénoncent, en fait, qui nient l'existence de la pandémie ou encore qui dénoncent, qui luttent contre les mesures sanitaires. Je ne crois pas qu'on en arrive là, mais je pense que dans le contexte actuel où on manque de ressources, c'est pertinent d'en parler. Puis moi, je trouve ça, en quelque part, assez sain qu'on puisse confier comme ça, en fait, livrer comme ça nos états d'âme sur la place publique. Moi, j'ai pas de scrupules à parler de ça, mais on sait très bien comment l'exercice va se terminer, cependant.
Oui, c'est ça. Avec le serment d'Hippocrate, un médecin doit soigner. Hein, même voilà. Dans un attentat terroriste, si le terroriste lui-même est atteint par la bombe, il va être soigné comme les autres personnes qui l'ont tué ou blessé. Et donc, c'est illusoire. Mais ce que les bioéthiciens ont proposé, c'est, comme tu le dis, Nathalie, c'est le volontariat. C'est-à-dire, moi, je veux pas porter le masque. Et il devrait rajouter une petite phrase. Puis si je tombe malade, je vivrai avec les conséquences. Parce qu'effectivement, il y a un choix à faire. Quand t'es rendu à dire, ben, on choisit de débrancher des gens ou pas, on n'en est pas encore. Il paraît qu'on est arrivé proche de là, là, qu'il y aurait eu un cas ou deux, mais qu'en Italie, ça a été fréquent, par contre. Et c'est pas impossible qu'on se rende là. Donc, la question, c'est, est-ce que il y aurait une façon morale de trier les gens? Et il y a plusieurs arguments médicaux qui permettent de dire que non, mais il y a des exceptions. Par exemple, en 2012, la Cour suprême du Canada a retenu l'accusation contre une personne qui avait contaminé au sida des personnes en se sachant porteur et en ne l'ayant pas déclaré. Il n'a jamais déclaré à ses victimes. Et en 2016, il y a eu deux accusations au Québec de personnes comme ça qui avaient contaminé les autres. Ils étaient porteurs, ils n'ont pas déclaré leur séropositivité à leur partenaire qui sont devenus CDN. Alors ça, c'est un premier exemple où, lorsque les conséquences sont très graves, il peut y avoir des peines d'emprisonnement. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un refus de soigner, mais il y a une peine d'emprisonnement? Alors, à ce moment-là, on pourrait dire, ben oui, tu vas aller te faire soigner en prison. Ça serait une autre option dans un système carcéral où les soins de santé sont sans doute moins développés que dans l'hôpital.
Ouais, mais tu vois, Luc, avant que les hôpitaux, moi, je vais vous livrer ma réflexion, OK? Avant que les hôpitaux mettent en branle ce qu'on appelle maintenant le protocole de priorisation des soins, je me disais, on peut pas soulever le sujet parce qu'on ne peut pas remettre en question un principe sacré dans notre société, c'est qu'il y a pas, on peut pas mettre une valeur sur une vie. Hein, on s'entend là-dessus, là. Tu sais, moi, je peux pas dire à mon voisin ou à mon beau-frère ou ma belle-sœur, ma vie vaut plus que la tienne. Mais à partir du moment où des médecins sont confrontés au choix extrêmement difficile, on s'entend là, du qui soigne-t-on puis qui laisse-t-on mourir, moi je crois qu'on vient d'ouvrir une brèche dans ce principe sacré qui veut qu'on ne peut pas mettre une valeur sur une vie. Alors, je me dis en quelque part, c'est sûr que c'est très dérangeant, là, tu l'as dit Paul en introduction, c'est un sujet délicat, extrêmement sensible, on en parle ce matin en marchant sur des œufs, mais il me semble, peut-être que ma lecture est fausse Luc, mais j'ai l'impression que un médecin qui doit, par exemple, dire ben, je choisis entre une personne de 92 ans qui est atteinte de la COVID, j'ai à choisir entre cette personne ou une personne de 60 ans qui est aussi atteinte de la COVID, mais qui a plus de chances de survie. Personne ne veut être confronté à ce genre de choix, mais il me semble qu'on vient de d'introduire une brèche, puis on vient de donner une valeur à la vie, oui. Ce qui est incontestable dans notre société.
Oui, mais de là à mettre un critère moral, là, à ce moment-là, c'est un peu différent, parce que les critères des médecins qui vont faire les choix, comme tu le dis, le protocole de décision, va toujours être basé sur la santé, l'espérance de vie, la possibilité que le traitement fonctionne ou pas. C'est difficile de faire porter ce jugement-là sur la morale. Puis ça sera difficile aussi parce qu'il y a des gens qui, sont des négateurs de la COVID pour différentes raisons. Il y en a, par exemple, qui se sont promenés avec un masque découpé dans le visage pour que leur bouche apparaisse, puis qu'ils disent vraiment au monde entier, on s'en fout de vos des préoccupations, puis c'est pas vrai, puis ça n'a pas d'allure. Mais il y a aussi des gens qui sont ignorants. Il y a des gens qui sont ignorants, puis qui n'ont pas porté le masque, puis qui n'ont pas fait attention. Là-dedans, qui est le négateur de la COVID, le COVIDio, puis qui est la simple personne ignorante? Puis la simple personne ignorante, il y en a dans d'autres domaines aussi. Il y a encore de multiples jugements en cours qui ont refusé d'accuser des mères porteuses enceintes et qui avaient des comportements nuisants à leurs enfants, comme par exemple la consommation d'héroïne, parce que c'est leur corps. Donc, il y a des précédents qui disent qu'on n'a pas le droit d'intervenir avec des critères moraux.
Mais dans les faits, là, les médecins qui parlent de ça, là, ce qu'ils disent dans le fond, ils savent très bien que les patients COVID qui arrivent à l'hôpital, c'est parce qu'il faut qu'ils soient hospitalisés ou encore aller aux soins intensifs. Ils vont les soigner. Ils veulent, je pense, surtout dire aux gens, c'est parce qu'on ne peut pas traiter pendant ce temps-là plein de patients qui auraient le droit d'être traités. Tu ne peux pas faire un choix. Tu sais, entre choisir quand tu n'as plus de ressources une affaire, là, mais l'écœur en titre, c'est de voir des gens qui défient le système, puis qui arrivent à l'hôpital, puis qui prennent la place de quelqu'un d'autre. C'est ça qui est enrageant pour bien des médecins. Là, pis des,
exactement. Des personnes... Pour bien des médecins, Paul, mais également pour beaucoup de citoyens. Puis je suis convaincue au moment où on se parle, là, sur ton texto, là, tu dois recevoir plein de messages où les gens disent, parce que moi, je l'ai entendu souvent, ben, on a juste, par exemple, à leur retirer leur carte d'assurance maladie s'ils se présentent à l'hôpital. On a juste à leur faire payer.
Mais ce que tu vas entendre aussi, là, c'est quelqu'un qui fume, est-ce qu'on le soigne pareil? Quelqu'un qui, qui a été négligent, est-ce qu'on va le soigner pareil? Je me souviens d'un médecin en Grande-Bretagne qui a été poursuivi par son patient cardiaque. Il a dit, toi, je t'opère pas, puis trouve-toi un autre docteur. Ben, tu sais, Guy Turcotte, il y a des médecins qui ont sauvé la vie en passant, hein, ou en tout cas, qui l'ont traité.
Bon, ben, OK, on guérit tout le monde d'abord.
Non, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est une image qu'on veut faire, mais qui est une image importante à faire.
C'est qu'une image, c'est qu'une image. Mais tu sais, on a raison d'en parler parce que les mesures d'urgence pose des questions morales qui n'avaient jamais été posées avant. En fin de semaine, une pharmacienne qui a dénoncé des parents, des personnes à qui elle avait prescrit des médicaments pour un voyage il y a deux semaines. Puis elle a vu ces personnes-là réapparaître dans sa pharmacie.
Dans la quarantaine.
Ben oui, c'est ça. Et elle les a dénoncées. Or, le secret professionnel aurait voulu qu'elle les dénonce pas. Mais il y a des règles, des fois, qui peuvent être tordues un peu, qui peuvent être pliées pendant les mesures d'urgence. Celle de le serment d'Hippocrate me semble pas faire partie de la liste.
Ouais, mais tu poses la question de la délation, de la dénonciation, des signalements. Puis ça aussi, c'est un autre débat intéressant. Est-ce qu'on veut vivre dans ce genre de société? Moi, personnellement, ma pensée évolue là-dessus. Moi, je salue cette pharmacienne qui a brisé son serment ou son secret professionnel pour dénoncer une situation qui, à sa face même, est absolument inacceptable. Tu sais, puis en quelque part, c'est comme tu prends l'engagement de respecter les règles qui sont en place, de respecter la loi sur la mise en quarantaine. Alors, tu peux pas comme ça t'amuser à briser ces règles-là en sachant que tu peux te mettre à risque, puis tu peux mettre aussi des gens autour de toi à risque. Mmh. Alors, moi, je me dis... Oui, il faut, dans certaines circonstances, je préfère le mot signalement que le mot dénonciation, par exemple, parce que au même titre, par exemple, qu'on va signaler un voisin qui est violent avec sa conjointe ou qui est violent avec son enfant.
Mais alors,
pourquoi on aurait du scrupule à signaler quelqu'un, effectivement, qui brise les règles? Puis moi, je vous le dis, ma pensée a évolué là-dessus, là, depuis trois semaines à peu près.
Tellement d'accord avec toi, Nathalie. Au début de la pandémie, rappelle-toi, des gens qui sont revenus de voyage sont allés travailler en CHSLD en cachant le fait qu'ils revenaient de voyage. Et or, à cette époque-là, le virus venait de l'extérieur, soit des États-Unis, soit de l'Europe, soit de l'Asie. Et et des gens qui sont allés, par exemple, à New York ou en Europe, ils sont revenus, ils ont travaillé en CHSLD, l'ont sans doute donné à des centaines de personnes qui, par la suite, sont décédées. Alors, effectivement, tu as raison de parler de signalement puis de l'importance de le faire. Sur ça, je suis tout à fait d'accord avec toi.
On s'arrête là-dessus et retour, on va parler beaucoup de la question. Des groupes qui se rassemblent dans les hôtels. Sommes-nous étonnés de la chose? Accident à quel endroit, Marc?